Bonsoir, comment allez-vous ? Hier, en Île-de-France, il a fait un temps radieux. Nous étions nombreux à profiter de l'assouplissement du confinement pour enfin aller nous promener à plus d'un kilomètre de chez nous. Ça trottait, ça marchait, ça pédalait. Nous étions comme des ressorts bondissant de leur boîte. Euphorique, je lançais des bonjours à tout le monde. Bonjour tonitruant, car nous nous croisions à bonne distance. À mon grand étonnement, presque personne ne me répondait. C'était curieux comme sensation. Au début, je me suis dit « bon, voilà un qui doit avoir mal aux dents, le pauvre ». Puis je me suis demandé si ce n'était pas moi qui avait quelque chose de repoussant, je sais pas, une crotte sur la tête ou un truc comme ça. Après, j'ai pensé que j'étais peut-être en train de croiser les membres d'une communauté lointaine, chez qui « bonjour » veut dire « va te faire voir ». Certains, cependant, me répondaient, non pas en disant « bonjour », mais « hein », en regardant par terre. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Cependant, j'ai une idée. J'ai travaillé pendant de nombreuses années à la télévision pour le plus grand bonheur des enfants de ma famille qui me disaient « je t'ai vu, t'as fait ci, t'as dit ça ». L'attrait de la télévision provoquait chez eux une joyeuse excitation. Sauf la petite Anna qui me disait dépitée « je t'ai vu et je t'ai dit bonjour et tu ne m'as pas répondu ». J'ai tenté de lui expliquer que moi je ne la voyais pas. Cela ne l'a pas convaincue. Si ça se trouve, tous ces gens que j'ai croisés dans les champs ne me voyaient pas plus que Laurent Delahousse quand il présente le journal de 20h à la télévision.
Bonjour, je m'appelle Alban et j'ai 7 ans et demi. J'aimerais bien savoir qui a inventé la télé.
Bonjour, je m'appelle Onisha, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir quand est-ce qu'on a inventé la télévision. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Alban et Onisha, c'est Thierry Lefebvre qui enseigne à Paris Diderot, donc à Paris, et qui est membre du CERILAC, Centre d'études et de recherches interdisciplinaires en lettres, arts et cinéma, qui va vous répondre. Qui a inventé la télé? Quand est-ce qu'on a inventé la télé? Demande-t-elle.
C'est une excellente question que posent ces deux jeunes filles, dans la mesure où, en fait, on ne sait pas trop. Pour toute invention, c'est très complexe. Il y a plein d'intervenants et, évidemment, nous n'aurons pas le temps de citer toutes les personnes qui ont pu participer à l'invention. Donc, mais en revanche, il y a un nom qui, historiquement, est réputé, célébré, en particulier au Royaume-Uni, c'est celui de John Baird. Baird, B-A-I-R-D. C'est un Anglais, un jeune étudiant ingénieur, qui décide de travailler sur ce concept de transmettre des images et du son à distance, puisque c'est le principe de la télévision, c'est sa définition même. Et donc, il commence à peu près en 1923 à faire des essais, et il parvient à mettre au point un dispositif en 25. Et surtout, et c'est là que la date est importante, en janvier 1926, il fait une première présentation officielle devant une société savante qui s'appelle la Royal Institution de Grande-Bretagne, et c'est le lancement, à proprement parler, de la télévision en tant qu'instrument. Hein. Ce n'est pas encore quelque chose que l'on regarde le soir en revenant du travail, loin de là. Son appareil lui donne un nom, et ce nom c'est Télévisor. Et en pratique, Télévisor va être traduit en français par le mot télévision, qui préexistait déjà. On utilisait le terme de temps en temps, mais il n'était pas fixé, à proprement parler. Alors, évidemment, nos auditeurs, auditrices se posent la question comment ça marche, la télévision. Et là, c'est très, très compliqué à expliquer. Alors, on peut résumer brièvement l'invention, en tout cas, de Baird de la façon suivante. Vous prenez un visage et vous allez faire passer devant ce visage une sorte de disque qui est percé de trous. Et à travers ce trou, il va y avoir la lumière correspondant en quelque sorte à des parties du visage qui va arriver sur ce qu'on appelle des cellules photoélectriques. C'est quelque chose qui transforme les photons, c'est-à-dire la lumière, en électricité. Donc on va faire en quelque sorte un clone de cette image électrique. Ça va être une onde, ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Et cette onde électromagnétique, on va ensuite la transmettre. Ça peut être transmis par fil, ça peut être transmis également par une antenne pour la télévision classique.
Mais Thierry Lefebvre, vous parlez d'une émission de télévision en direct?
Oui, bien sûr, c'est toujours en direct. À l'époque, on teste dans des studios et on fait venir des personnes qui sont souvent des comédiens, des chanteurs, des danseurs, et on va les tester sur place.
Et quand il a fait sa première démonstration, les gens qui regardaient, qui ont été invités à cette démonstration, étaient dans un lieu et l'émetteur était loin, c'était
voilà,
dans la même maison.
Il était à plusieurs centaines de mètres. Il fallait démontrer évidemment qu'on pouvait transmettre par la voie des airs, en quelque sorte, ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques ou ondes hertziennes. C'est des mots que les jeunes auditeurs peuvent entendre régulièrement. Il fallait démontrer que c'était efficace. Mais attention, la première présentation, l'image est très mauvaise.
Très mauvaise.
Pour donner juste un repère, si nos auditeurs ont une télévision HD, c'est une image composée de 1080 lignes superposées, les unes sur les autres, pour reconstituer l'image. À l'époque, c'était 30 lignes.
Ah oui.
Donc les visages étaient assez charbonneux, peu visibles, on ne pouvait pas les distinguer à proprement parler. Mais c'était les débuts.
C'était magique.
Voilà, c'était magique et on montrait surtout que c'était possible.
Thierry Lefebvre enseigne à Paris Diderot. Il a écrit, entre autres, Radio Libre, 30 ans de FM, La Parole Libérée, avec Sébastien Poulain, et c'est édité chez L'Harmattan. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, vous entendrez Charlotte qui a demandé s'il y avait vraiment du verre, du vrai verre, dans la laine de verre. Marina qui a demandé pourquoi on avait honte de dire à la personne qu'on aime qu'on est amoureux d'elle. Et enfin, Xavier qui s'interroge sur la différence entre un conte et un roman.
Bonjour, je m'appelle Tao, j'ai 5 ans et demi, et je voudrais savoir pourquoi on a de la cire dans les oreilles.
Mais c'est pas triste, Tao, bonjour. Quelle jolie petite voix. Docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel, vous êtes ORL. On a de la cire, dit Tao. J'ai l'impression qu'il dit cire comme cire de bougie.
Oui, mais c'est du cérumen, en fait. Mais ça a effectivement une consistance un peu de cire. Donc, chez l'homme, elle est jaune ou marron. La cire dans les oreilles, elle a une fonction. Faut pas aller se récurer les oreilles comme ça.
Ah, j'adore ça, moi.
Elle va permettre... Oui, c'est jubilatoire, je sais. Ça va permettre... Elle va progresser du fond de l'oreille, la fabrication de la cire, jusque à l'orifice, là, on voit dehors. Et ça va permettre d'enrober toutes les poussières, les particules, tout ça, même des fois les petits insectes qui sont là, et d'éliminer et de garder le tympan bien dégagé.
D'accord.
Et il faut savoir que le tympan, qui est au fond du conduit de l'oreille, il se renouvelle tout le temps. Les cellules, elles poussent du centre à la périphérie ou pourtour, et puis ça revient sur les côtés, et on a tout le temps des nouvelles cellules comme ça. Donc le cérumen, il sert aussi à enlever tout ça, à le diriger, le convoyer vers la sortie. Si on se gratouille tout ça, on repousse le cérumen. Et là, on fait des bouchons.
Donc, le cérumen est une espèce d'auto-nettoyage.
Voilà.
Qui enlève les cellules mortes du tympan, qui enlève les choses qui arrivent de l'extérieur. Il faut laisser ce procédé.
Tout à fait. Et on peut se nettoyer l'entrée de l'oreille
mais
pour pas avoir des trucs, mais surtout pas les pousser dans le fond. Et les cotons-tiges, les ORL, comment on horreur des cotons-tiges. Moi, je dis que ça sert à une seule chose, à faire la fortune des marchands de cotons-tiges. Juste l'entrée, ça suffit.
Dites-moi, le tympan, il est grand comme une pièce de 1 centime d'euro?
Oui, à peu près.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est tout petit. Mais c'est la membrane la plus sensible du corps humain.
Ça fait mal si on touche?
Eh ben, quand on a une otite, ça fait atrocement mal.
La membrane la plus sensible du corps humain, le tympan. Donc, vous l'avez compris, le docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel est médecin ORL, phoniatre, psychologue et phonéticienne, et elle est spécialiste dans le bégaiement. Elle a d'ailleurs un blog sur le bégaiement que vous pourrez trouver sur le site des Petits Bateaux. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Garde-le en mes yeux, ça C'était Dua Lipa et Angèle. C'est réussi cette rencontre de la brune et de la blonde, de la britannique et de la belge. Fever, Dua Lipa et Angèle.
Les petits bateaux sur France Inter.
Yves Darche est venu au Petit Bateau en 2011. Hélas, il est mort depuis. Il était le président de l'Amicale des retraités d'Isovert, Saint-Gobain, Rantigny. Nous rediffusons sa réponse, car assez curieusement, parce que ce matériau n'est plus tellement d'actualité, donc assez curieusement, la question est tombée à nouveau. Et c'est tellement extraordinaire la façon dont les choses sont fabriquées. Et nous avions bien aimé cette réponse. Alors tout simplement, nous la rediffusons.
Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 12 ans et je voudrais savoir si la laine de verre est vraiment faite de verre. Merci, au revoir.
Si la laine de verre est vraiment faite de verre.
Oui, il y a du verre dans la laine de verre, mais pas uniquement du verre. Je suppose qu'elle connaît la barbe à papa, qui a une espèce de cylindre,
ouais.
Puis il y a un petit cône, ouais. Percé de plein de trous. On met un peu de sucre et puis un colorant, ça tourne à pleine vitesse et ça fait des fibres. C'est le principe de base. C'était de penser à utiliser la force centrifuge. Bon, le verre n'existe pas à l'état naturel.
Qu'est-ce qu'il y a dans le verre Yves Darche ?
De la silice, de la soude, de la chaux. Tout ça, c'est fondu dans un four, aux alentours de 1400 degrés.
Donc, une fois qu'on a le verre ?
Alors, le verre est acheminé ensuite dans ce qu'on appelle une machine de fibrage. Il y a un arbre creux, et en dessous de cet arbre creux, il y a ce qu'on appelle une assiette. Où on doit enlever le fond. Et tout autour, il y a des petits trous, peu près 3000. Et ce filet de verre vient tomber au travers du cylindre, sur cette assiette, qui tourne à 3000 tours minute. Le filet de verre est éclaté par la force centrifuge, il est expulsé par les petits trous. Et là, on a des jets de gaz à très haute vitesse qui viennent étirer la fibre pour la finir, en fin de compte.
Donc déjà, par le petit trou, la fibre, elle sort très fine et vous l'affinez encore avec
Exactement.
Les jets de gaz. Donc ça fait vraiment des cheveux de verre. Qu'est-ce qu'on en fait après ?
Une fois que ça sort de ce qu'on appelle l'assiette, là, il y a des pulvérisateurs, il y a un tapis, tout est aspiré pour que toutes les fibres tombent bien sur le tapis. Le tapis avance. Ensuite, il y a une étuve qu'on appelle une étuve de polymérisation à 400 degrés. Dans cette étuve, l'eau s'évapore et ce fameux liant durcit. Et les fibres qui sont en ordre dispersé, ça fait des petits points de soudure, ce qui rend le matelas souple, le matelas de verre. Donc ça, c'est la laine de verre.
Alors, Yves Darche, il y a quelque chose qui me préoccupe. Le rôle de la laine de verre, c'est d'isoler. On est d'accord. Quand je prends une tasse en verre d'un liquide chaud, je me brûle. Je trouve que le verre n'isole pas tellement.
Dans votre tasse, il n'y a pas d'air. Tandis que dans la laine de verre, il y a à la fois du verre et de l'air. Les fibres conservent une partie d'air. Le meilleur isolant, c'est l'air. Il faudrait qu'il ne bouge pas. Puis ça, on n'a jamais vu de l'air qui ne bougeait pas.
Donc en fait, la laine de verre est isolante parce que le verre arrive à capturer l'air.
En quelque sorte, oui. Dans un panneau de laine de verre, il y a 95% d'air et 5% de verre. En général, une fibre de verre fait de l'ordre de 5 microns. 5 microns, ça veut dire 5 millionièmes de mètres.
C'est plus fin qu'un cheveu, non, quand même pas plus épais.
Ah, beaucoup plus fin qu'un cheveu, oui.
Ah bon ?
Un cheveu, on dit que ça fait en gros 70 microns. Si on pouvait étirer une fibre de verre unitaire qui pèse 1 kilo.
D'accord.
Ça ferait 14 000 km pour aller de Paris à Los Angeles.
Voilà, remerciement posthume à Yves Darche qui a réussi à nous expliquer quand même c'est presque un oxymore, hein, laine de verre, parce que le verre ne se tricote pas. C'est toujours difficile dans les petits bateaux, puisque nous n'avons pas de dessin, les explications techniques. Donc encore une fois, bravo, nous avons compris et merci.
Bonjour, je m'appelle Marina, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir pourquoi on a honte de dire à la personne qu'on aime qu'on est amoureuse d'elle. Merci.
Marina, c'est Fabrice Midal qui va tenter de répondre à cette question, c'est pas facile.
Ah, c'est magnifique. D'abord, c'est vrai, c'est tellement vrai qu'on a honte de dire à la personne qu'on aime qu'on est amoureux ou amoureuse d'elle. Et c'est parce que dans l'amour, on est profondément touché, on est mis à nu. Donc c'est un peu inconfortable. Donc de devoir dire à quelqu'un qu'on l'aime, on prend un risque très important. Si jamais vous voulez être complètement confortable et ne jamais avoir de problème, il faut surtout ne pas aimer. Parce que dès qu'on aime, on prend un certain risque. Il y a une très belle nouvelle de Franz Kafka qui s'appelle « Le célibataire entre deux âges », qui a un monsieur qui a plein d'habitudes et qui n'aime rien. Et il imagine avoir un chien. Et il s'imagine qu'il va aimer le chien et donc il va avoir des soucis pour lui, puis il va tomber malade, le chien il va devoir s'en occuper et finalement il préfère rester dans sa routine.
Et il prend pas de chien.
Et il prend pas de chien et il reste tout à fait isolé. Et cette nouvelle montre bien que dès qu'on aime, on prend un certain risque et que lorsqu'on aime, on devient un peu responsable de ce qu'on aime. Mais il faut dire à Marina qu'il faut quand même prendre le risque de dire « je t'aime » et qu'on a sans cesse à dire à neuf « je t'aime ». Et que ça donne ici une indication très précieuse sur ce qu'est le langage et la parole. Parce que dire « je t'aime », c'est pas la même chose que dire « passe-moi le sel ». On ne donne pas une information, on dit un poème. Chaque fois qu'on dit à quelqu'un « je t'aime » ou « je suis amoureux de toi », on dit un poème et donc c'est pour ça que ça nous engage autant.
Fabrice Midal, vous avez dit « on ne donne pas une information », on pose aussi une question, ça veut dire « m'aimes-tu ? »
Absolument. Et donc, c'est pour ça que là, c'est l'aspect de risque. Il y a les deux aspects. Il y a l'aspect incroyablement poème, de dire à quelqu'un « je t'aime », et puis il y a un risque, qui est peut-être la beauté de l'existence humaine, de pouvoir prendre ce risque.
Alors vous, Fabrice Midal, philosophe, vous dites, vous êtes à fond pour, il faut prendre ce risque.
Ah oui, sinon on n'est pas vraiment humain. Évidemment, c'est important parce que nous avons tendance de plus en plus à vouloir tout contrôler et donc à ne pas vouloir le dire ou alors à penser qu'il faut le dire que si on est absolument sûr et c'est perdu. Quelque chose de notre humanité est perdu.
Même si dans son évaluation, on sait qu'on a beaucoup de chance de se prendre un râteau, comme on dit.
Mais déjà, il se passe quelque chose si on dit « je t'aime pour de bon ». C'est pas seulement qu'on veut obtenir quelque chose. Comme elle le dit très bien, Marina, on a honte parce que on est mise à nu. Et je crois que cette mise à nu, elle est belle. Et que la personne réponde oui ou non, il se passera quelque chose d'absolument profond et vrai. Même si la personne ne peut pas répondre à votre amour, si vous lui dites que vous l'aimez pour de bon, ça changera de manière profonde la relation.
Au moment où je vous entends parler, Fabrice Midal, je me dis qu'on peut ne jamais avoir eu l'idée d'être amoureux de quelqu'un, mais quand ce quelqu'un vous dit qu'il vous aime, on peut être tellement touché par cette démarche, par cette mise à nu, ce que vous venez de dire. D'abord, il faut un sacré courage.
Oui.
Ça peut déclencher un amour.
Absolument.
Une déclaration peut déclencher un amour qui n'existait pas avant, en fait.
Absolument. Ça change tout. Ça ouvre un nouvel espace dans la réalité. Ça faudrait vraiment complètement changer de perspective. Vous voyez, nous, on a l'impression qu'il faut le dire si on est sûr, si c'est garanti, si ça nous engage pour toute la vie. Mais il faut faire beaucoup plus confiance dans l'expérience réelle de ce qui se passe.
Bon, il n'y a plus qu'à se jeter à l'eau. Allez, je vous cite ce livre-ci de Fabrice Midal. Il en a écrit beaucoup d'autres que vous trouverez sur le site des Petits Bateaux. Mais celui-là va bien avec la question traitée. « Et si de l'amour on ne savait rien ?» édité chez Albin Michel.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Don't stop me, ooh, ooh, ooh. I like it.
Don't stop me,
have a good time.
a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
yes,
now.
I'm having a good time.
I don't wanna stop at all.
Que c'est beau, Freddie Mercury, Don't Stop Me Now, dans Les Petits Bateaux. Vous connaissez le principe de l'émission, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Allô, c'est Xavier Barbouzet, j'ai 9 ans et je voulais savoir quelle est la différence entre un conte et un roman. Merci, au revoir.
Bonsoir Xavier, Jean-Joseph Julot.
Le conte, c'est l'oral, c'est la tradition orale pendant très très longtemps. Les gens ne savaient pas écrire, il faut se dire. Quand on dit les gens ne savent plus écrire maintenant, quand ils sont 36e, mais avant c'était 99% des gens qui ne savaient pas écrire. Et à l'époque où on ne savait pas écrire, eh bien on se transmettait les contes de bouche à oreille. Les contes avaient deux publics, le public des adultes d'abord, parce que c'était des histoires édifiantes où on pouvait voir ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, quelles conduites on pouvait adopter, quels excès il ne fallait pas commettre. Et puis, il y avait aussi des contes pour enfants, des contes merveilleux, des Il était une fois. Et le conte est très très ancien, puisque l'un des tout premiers contes écrits a été trouvé en 1300 avant notre ère. Chez les Égyptiens, il était écrit sur un papyrus. Et c'était une histoire qu'on retrouve d'ailleurs dans les contes, un petit peu dans tous les pays. Et vous avez des gens qui se trouvent quelquefois à la croisée des chemins et qui se disent « Tiens, moi je vais recueillir ces contes-là et je vais les écrire ». Il y a eu Charles Perrault, c'est curieux parce qu'il était chargé de la promotion de l'image de Louis XIV. Ça s'est mal terminé d'ailleurs, parce que Louis XIV n'a pas été très content à la fin, il l'a un peu disgracié. Mais enfin, Charles Perrault avait un fils qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Pierre d'Arnoncourt. Et ce fils, il lui a dit « Pour t'occuper », ce fils était très doué, c'était un surdoué à 15-16 ans. Il l'envoyait récolter des petits contes, soit dans les campagnes environnantes, soit auprès des nourrices qui venaient à la cour. Et alors, le Pierre d'Arnoncourt a écrit ces contes-là. Malheureusement, à 19 ans, il a eu une bataille avec quelqu'un qui l'a tué. Et il a été obligé de partir à la guerre, et il est mort à 21 ans. Et Charles Perrault ne s'en est jamais remis. Alors il a repris tous les contes écrits par son fils, il l'a changé quelques mots, il les a aménagés, et il a publié ces textes-là, pas publiés sous son nom, vers 1694-97, il y a eu deux éditions, et c'est devenu donc les contes de Perrault, les fameux contes de Perrault, et c'est toute cette transmission orale qui a pris ce tremplin du conte que l'on connaît maintenant, et ça s'est figé un petit peu. Alors, on peut parler maintenant peut-être du roman.
Alors, le roman.
Le roman, c'est curieux comme histoire, l'histoire du mot roman, parce que on a parlé longtemps latin en Gaule. Petit à petit, le latin s'est abîmé, s'est érodé, les mots, on les a déformés, c'est devenu une autre langue. Et cette langue-là, ça s'est appelé le roman, qui sert d'ailleurs...
Comme l'art roman.
Comme l'art roman, voilà, c'est ça. Alors, cette langue romane, qui existe surtout dans le nord de la France d'ailleurs,
mais ça vient de Rome.
Ça vient de Rome, oui, c'est ça, le langage. C'est une façon de dire que c'est une autre forme du latin. On écrit en latin, mais quelquefois, on fixe ce langage oral roman. On dit on va écrire en roman. Donc c'est une autre langue qui commence à s'écrire. Au bout d'un certain temps, quand on écrit une histoire, comme le dit Chrétien de Troyes au XIIe siècle, on l'écrit en roman. Il dit « je vais écrire un roman ». Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à écrire des romans. Et les romans sont devenus des histoires.
C'est
voyez
génial.
Alors, au début, les romans sont en vers. Et puis ensuite, à partir de Rabelais, on a des romans en prose, et voilà, le roman est lancé. On commet des excès. Au XVIIe siècle, on écrit des romans de 8000, 10000 pages. Mademoiselle de Scudéry qui écrit Le Grand Cyrus, qui fait 13000 pages. Enfin, ça part dans tous les sens, c'est illisible. Enfin, le roman va resserrer un petit peu. C'est au XVIIIe siècle, c'est le roman picaresque. Et puis, au XIXe siècle, eh bien, le roman trouve ses lettres de noblesse avec Balzac, avec Zola. Ah, et ce sont des grands témoins et de grands écrivains qui nous donnent un style. On aime bien Maupassant, on aime bien Flaubert, et puis on a nos grands écrivains du XXe siècle. On a Marcel Proust qui est le grand des grands, puisque quand on entre dans Marcel Proust, on entre dans la cathédrale des mots, dans la cathédrale de la phrase.
Ah,
c'est magique, c'est formidable. On a des écrivains extraordinaires. Notre siècle est très riche en écrivains.
Jean-Joseph Julot a écrit entre autres la littérature française pour les nuls. Alors à propos de romans, j'ai adoré et dévoré ce roman pour adolescents édité chez Pocket Jeunesse, Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. C'est l'histoire de Léa, 16 ans, excellente joueuse de basket, surentraînée par son entraîneur de père. Elle réussit le concours d'entrée à l'INSEP, Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Un soir, Léa rencontre par hasard une bande de garçons qui eux aussi jouent au basket, mais alors pour le plaisir, à la cool. Dans le groupe, il y a Anthony, 17 ans. Cette carpe et ce lapin vont se plaire et s'aider. Ils en auront bien besoin car la vie va leur réserver quelques coups durs. Il est possible, je ne vous dis pas ce qui va se passer, car ce n'est pas dans la poche, qu'ils vivent une histoire d'amour. Il est aussi possible, hélas, que ça capote. Ce livre se lit d'une traite, jour et nuit, même si on a sommeil, même si on n'est plus ado. Vous pouvez réécouter cette émission et la podcaster sur franceinter.fr à la page des petits bateaux. Marjorie Devoucou, Tiffany Battistel, Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert, Stéphane Combe, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30.